Le droit est nous, dans la grande matinale avec Aloutal, sur Africa numéro 1.
Les changements de la loi en matière de régularisation. La nouvelle loi sur le droit d'asile et le séjour des étrangers en France vient d'entrer définitivement en vigueur depuis le 1er mars 2019. En dehors des règles sur le droit d'asile que nous avons abordées, cette loi apporte des changements qui compliquent davantage la situation des étrangers en situation irrégulière, communément appelée « sans-papiers ». Nous traiterons ces changements restrictifs contre les sans-papiers lors des prochains numéros « Le droit et nous ». Aujourd'hui, nous abordons le changement apporté par la nouvelle sur les possibilités d'obtenir un titre de séjour en France dans le cadre de la régularisation. Bonjour Aloutal.
Bonjour Phil.
Alors, mais avant cela, nous avons été interpellés par un auditeur, un homme victime de graves faits de violence conjugale, ce qui est rare. Nous avons promis à cet auditeur de revenir sur sa question avant d'aborder le sujet du jour. Pouvez-vous revenir sur ce que dit la loi sur les violences conjugales ?
Effectivement. Si vous vous rappelez bien, donc effectivement, il y avait un auditeur qui m'avait interpellé et avec qui j'ai eu à m'entretenir après l'émission, l'avant-dernière émission. Et qui se plaignait, c'était un homme, comme vous l'avez bien précisé, qui était victime de violences conjugales. En général, effectivement, quand on conçoit cette notion, on pense plus à la violence qui est faite par un homme
à
l'encontre d'une femme. Ouais. Et quand c'est conjugal, donc dans le foyer, donc l'époux sur l'épouse.
Il y a aussi violence réciproque.
Effectivement, et en l'occurrence, c'était vraiment, il y a réciproque, et en l'occurrence, c'était unilatéral de la part de la femme vers l'homme. Et c'était tellement grave que moi-même, j'étais vraiment interpellé. Et on a bien fait de revenir sur cela parce que ça devient un peu habituel et redondant. Et que maintenant, des gens abusent de leur situation de position dominante, de position familiale dominante, pour faire subir à l'autre des faits qui sont assimilés au regard de la loi comme des violences. Comme on l'avait dit, la violence n'est pas que physique, elle peut être psychologique et dans les deux cas, c'est réprimé par la loi. En l'occurrence, cette personne, elle, un homme en l'occurrence, était victime de violences physiques, de coups et blessures volontaires de la part d'une femme qui, à la limite, le faisait de manière même pathétique et pathologique parce que cette femme était contrainte de suivre des traitements médicaux, était contrainte de s'éloigner du domicile conjugal. On voit ça classiquement en droit, mais en général, c'était plutôt un homme violent à qui on demandait de s'éloigner de la femme qui était victime de ces coups et blessures. Là, c'est des coups et blessures de la part d'une femme. Je ne sais pas quelle était sa morphologie physique, mais en tout cas, c'est l'homme qui était vraiment victime de ces violences. Et d'où l'intérêt de revenir sur ça, comme on l'avait promis, parce qu'il faut rappeler le cadre global des violences, de manière globale, les violences physiques, les violences psychologiques, et en quoi la violence conjugale est plus grave que la violence classique. Parce que c'est fait dans le cadre d'un couple. On considère que les conjoints ont plutôt l'obligation de s'entraider et de soutenir, et non pas de s'entretuer avec des violences, quelle que soit leur forme. On va d'abord préciser qu'est-ce que la loi considère comme une violence conjugale. Comme on l'a déjà précisé, c'est le ressort d'un principe fondamental de droits humains qui veut que toute personne a droit à son intégrité physique et à son intégrité morale et qu'il y a une égalité stricte entre l'homme et la femme. Et selon le code pénal en ce qui nous concerne la France, et ce code pénal qui a été reproduit dans tous les systèmes juridiques africains d'inspiration juridique francophone, de culture juridique francophone, la violence est qualifiée de violence conjugale si l'auteur et la victime sont liés ou ont été liés par le mariage. Et depuis la loi de 92 qui a modifié le code pénal, en l'occurrence la loi du 22 juillet 92, qui a réformé le code pénal, la qualité de conjoint de la victime constitue une circonstance aggravante de l'infraction commise. Cela a été précisé aussi par l'article 132-80 du code pénal, et on l'avait rappelé, il y a une loi en 2006, en l'occurrence le 4 avril, qui prévoit que le conjoint peut être le concubin ou le pacsé, et que la qualification de violence conjugale est retenue même si le couple est séparé, divorcé ou que le pacte a été rompu. Donc, il ne s'agit pas de violences concomitantes au maintien de la vie conjugale. Cette violence peut être retenue comme violence conjugale tant bien que le couple est séparé. Donc, faites attention. N'essayez pas de créer une violence psychologique à votre conjoint qui vous a laissé parce que vous n'êtes pas content. Le fait de continuer de l'harceler avec des SMS, le fait de continuer de l'harceler par personne interposée peut être constitutif de violence conjugale. Et le terme en tant que tel n'est pas anodin parce que la conséquence juridique pénale de cette violence, de cette qualification, tant bien que vous êtes séparés, peut être très lourde parce que ça mène à la prison. La violence peut aussi être, comme on l'a dit, physique, coups et blessures, des agressions ou même un viol, parce qu'il peut y avoir du viol dans le couple, on va y revenir. Ou moral, psychologique, intimidation, des insultes, des menaces, de l'harcèlement moral.
Du chantage.
Du chantage, très bien. Le mariage forcé, c'est ça depuis la loi de 2015, en l'occurrence la loi du 15 juillet 2015 sur l'asile, mais qui a porté des éléments pour protéger des personnes qui sont victimes de violences psychologiques. En l'occurrence, le mariage forcé depuis leur pays d'origine est même mis encore. La violence conjugale qui est perpétrée à l'étranger, à votre conjoint qui est là-bas, peut être réprimée en France. Ça veut dire que si ce conjoint a un avocat, un conseil pertinent qui connaît l'actualité du droit français, il peut vous poursuivre depuis là-bas sur la base d'un dispositif de droit français ici et vous faire sanctionner ici en France. De la même manière, ses parents ici peuvent vous poursuivre parce que vous faites subir à leur fille ou à leur fils, suivant l'état de la victime, ouais, des violences conjugales et vous serez sanctionné.
Alors,
ici
pour revenir très rapidement, donc, si on subit ces violences hors de la France, par exemple en Afrique, et vous avez la possibilité de venir porter plainte en France.
Effectivement.
Ouais. Avec des preuves.
Avec des preuves, bien sûr.
Ouais.
Avec des preuves, ça, notamment par exemple des preuves médicales, ça peut aussi être des attestations de protection, une ordonnance de protection judiciaire. Qui sont des preuves qu'effectivement il y a des violences qui ont été perpétrées à l'étranger et qui peuvent être sanctionnées ici. Il faudra faire très attention. Et la violence, il faudra aussi la prouver.
Ouais.
C'est ça, la question pertinente que Phil vient.
Parfois, je me dis, comment prouver une violence psychologique? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme preuve? Parce que bon, on peut subir des menaces ou du chantage de façon psychologique, mais on ne sait pas comment justement rassembler des preuves par rapport à cet état de fait.
Il y a des mêmes preuves qu'on peut utiliser pour contester une violence physique, comme par exemple le fait d'avoir un certificat médical. Le médicien peut vous délivrer des documents qui attestent que psychologiquement vous êtes dérangé, que vous êtes même psychologiquement dans une situation délétère. Le médecin peut le prouver.
D'accord.
Des consultations, c'est le psy, peuvent servir de preuve. Ça peut aussi être des attestations, par exemple d'assistants sociaux. J'aime pas le terme assistante sociale parce que tous les assistants sociaux ne sont pas des femmes, si bien qu'en femme la majorité ce sont des femmes. Donc ça peut être des éléments qui peuvent vous permettre donc de prouver cet état de fait. Si c'est des violences aussi physiques, ça peut être des photos, ça peut être des témoignages, ça peut être des témoignages du voisinage qui dit que cette personne, effectivement, nous, on a constaté que son mari l'insulte publiquement, son mari l'envoie au marché, ou bien, je dis son mari ou son épouse, hein, comme on dit.
Son épouse l'envoie au marché.
Vous comprenez?
Son épouse lui demande de faire la vaisselle.
Et l'harcèle s'il y a une seconde de retard. Tout ça, ça peut être des témoignages du voisinage proche ou bien lointain, ça veut dire les voisins de quartier.
Ouais.
Donc, tout ça, ce sont des éléments de preuve qu'il faut essayer donc d'avoir. Et maintenant, une fois que la violence est là, pour la personne qui l'a subie, en général, c'est une violence indicible. Une violence qu'on est en train de subir dans le silence, parce que parfois, il peut y avoir de la honte. La honte à savoir qu'on est en train de subir cela et à le dire. Parce qu'on a un certain standing
parce social. Parce qu'il y a des hommes aussi qui ne parlent pas.
Qui ne parlent pas.
Voilà.
Effectivement, il y a des femmes qui ne parlent pas surtout. Parce que globalement, il faut le retenir encore. La majorité des cas qui sont connus par les juridictions, c'est le fait d'hommes qui est sur des femmes. Bien que la tendance est en train de s'inverser, mais jusqu'à présent, c'est le cas de figure. Et ces femmes, au regard de leur standing social, ont parfois du mal à en parler à leur entourage, ont du mal à l'extérioriser. Alors que pour se protéger, la première étape de cette protection, c'est extérioriser la violence en parlant. Même si vous avez du mal à en parler à votre entourage proche, au moins essayez d'avoir le contact d'assistants sociaux qui sont là pour vous conseiller. Si c'est assez grave, appelez le 17 ou bien le 115, le SAMU social. Et surtout maintenant, il y a un numéro spécifique dédié à un organisme qui va vous protéger, le 3919. Violence faite aux femmes. Malheureusement, il faudrait changer cela. Madame Schiappa ou autre, les violences ne sont pas que vers les femmes. 3919, ça concerne tout le monde parce que les violences ne sont pas que les femmes. Mais néanmoins, retenez ce numéro s'il y a une violence. Et surtout, faire une main courante ou déposer une plainte systématiquement à la police et demander l'attribution provisoire du logement. Parce que s'il y a une violence, il est plus sûr que vous restez dans le même logement.
Oui.
Quel que soit l'auteur, ça peut revenir. La police n'a pas le droit de refuser d'enregistrer une plainte pour violence conjugale. Il faut retenir cela. Parfois, les commissariats sont encombrés. Ils peuvent vous envoyer promener pour des plaintes qui, à leur sens, ne relèvent pas du droit pénal ou bien ne présentent pas des caractères.
Ou sous-estimer l'affaire en vous disant allez vous régler votre problème en couple.
En couple, oui, c'est des problèmes de couple. Encore, ils reviennent. Surtout si vous êtes déjà revenu, si vous êtes des récidivistes. Si vous comprenez bien, si j'étais policier, je ne vais pas avoir cette tentation. Malheureusement, la loi ne me permet pas de subir cette tentation. Je suis obligé de prendre une plainte pour violence conjugale si je suis policier. Donc, si vous allez dans un commissariat, on va retenir votre plainte. Au contraire, même les policiers vont vous accompagner dans cela parce qu'ils comprennent les enjeux de ces infractions pénales. Il faut aussi saisir directement, sans attendre l'issue de la plainte, le juge aux affaires familiales ou le procureur pour obtenir une ordonnance de protection. Cette ordonnance peut être délivrée pour 6 mois renouvelables. Et si vous avez des enfants, il faut demander à ce que l'autorité parentale vous soit exclusivement accordée. Rappelez-vous bien, on a traité il y a 2 semaines les règles sur l'autorité parentale et quelles sont les conséquences de cette autorité parentale si vous l'exercez.
Oui.
Et demandez à ce qu'il soit interdit au conjoint violent de s'approcher de vous. Demandez aussi qu'on vous attribue un téléphone grand danger. On l'avait traité il y a 1 an, le téléphone grand danger.
Téléphone grand danger.
Très bien, que vous pouvez
actionner. Il est gratuit ?
Il est gratuit. Et vous êtes prioritaire. Dès que vous l'actionnez, on vient vous chercher. Donc voilà globalement ce qu'il faut retenir donc, des violences conjugales. Il faudra quand même dire à nos auditeurs qu'il y a des sanctions. On va revenir sur les sanctions qui sont prévues par la loi assez rapidement. Et que pour, l'objectif, c'est de décourager les gens, en fait. L'objectif, c'est de les décourager à être tentés par ces violences. Moi, ce qui me préoccupe, c'est plutôt les violences de tendance psychologique qui sont
peu visibles.
Voilà, et qui se généralisent, qui se banalisent davantage. Et qui, malheureusement, comme les violences physiques, font l'objet des mêmes sanctions. En l'occurrence, si on considère qu'il y a des violences physiques et qu'il y a une interruption temporaire de travail inférieure à 8 jours, vous risquez 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Si l'ITT est supérieur à 8 jours, vous risquez 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Si ce sont des violences habituelles, ça veut dire que la femme ou bien l'homme a l'habitude d'être maltraité physiquement, psychologiquement, si l'ITT est inférieur à 8 jours, la peine monte à 5 ans de prison avec 75 000 euros d'amende. Si l'ITT est supérieur à 8 jours, la peine va jusqu'à 10 ans de prison avec 150 000 euros d'amende. Si la violence est fatale, j'entends fatale, par là, ça veut dire qu'il y a mort d'homme.
Exact.
Là, ça devient assez grave. Si on considère qu'il y avait l'intention de donner la mort, là, c'est perpète, comme on dit. Ça veut dire prison à vie. S'il n'y a pas l'intention de donner la mort, homicide involontaire sans intention de donner la mort, vous avez 20 ans de prison si la mort a été causée par un seul acte de violence. Si la mort est consécutive à plusieurs actes de violence, vous risquez 30 ans de prison et les magistrats ne sont pas du tout tolérants à ce niveau.
Ouais.
En dernier lieu, il faut retenir que vous pouvez être sanctionné par des violences sexuelles. Tant bien que vous êtes marié, on peut dire, mais attends, comment je peux violer ma femme? Vous pouvez violer votre femme et votre femme peut vous violer.
Exact.
Et lorsque vous violez votre femme ou que votre femme vous a violé,
ouais,
vous risquez 20 ans de prison. C'est drôle de le dire, malheureusement, il y a beaucoup de contentieux maintenant. Je n'avais pas envie, il m'a forcé. Et finalement, c'est une agression sexuelle. Au mieux, au pire, ce sera un viol. Et quand c'est un viol, effectivement, il y a des violences, il y a des sanctions qui sont prévues à la loi, par la loi. Et dernier lieu, pour les violences psychologiques, si on considère qu'il y a un harcèlement moral qui a créé de l'anxiété, une dépression, vous pouvez être sanctionné jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Donc, il faudra vraiment faire attention à ce niveau-là. Ce n'est pas un jeu. Toutefois, c'est intéressant de le dire. Si vous êtes victime de violences conjugales, quel est l'impact de cette violence sur votre droit au séjour? Normalement, pour que la carte de séjour délivrée à l'étranger qui est conjointe d'un ressortissant français soit renouvelée, il faut que la vie commune n'ait pas cessé, sauf si la rupture est due au décès d'un des conjoints. Il ne faut pas tuer exprès votre conjoint pour renouveler le titre de séjour. On a vu des gens qui ont tué leur conjoint pour des assurances vie.
Exact.
Ça, on le sait, c'est maintenant presque banal. Mais si la rupture de la vie commune est due à des violences conjugales physiques ou psychologiques, le préfet n'a pas le droit de refuser le renouvellement de votre titre de séjour. Donc il faudra garder les preuves, c'est doublement intéressant. Parce qu'il y a des chantages au titre de séjour qui peuvent amener à des violences délétères. On va y revenir aussi.
Les changements de la loi en matière de régularisation, c'est donc notre sujet du jour. Vous pouvez déjà composer le 01 55 07 58 00 en direct. Le droit et nous, très rapidement, Aliou.
Effectivement, il faudra préciser un dernier mot sur ces violences avant de clôturer. C'est que le fait d'accuser son conjoint de violences conjugales pour le priver d'un titre de séjour, de lui faire subir un chantage au papier ou un esclavage moderne à cause de la dépendance administrative est puni par la loi. C'est la ressort de la loi que j'ai précitée du 4 avril 2006 qui a introduit un amendement et qui punit 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de priver dans un couple l'autre conjoint de ses papiers d'identité ou de son titre de séjour.
Voilà, nous allons revenir donc dans quelques instants. Retenez le numéro 01 55 07 58 00. Nous avons déjà Fatoumata en ligne. Ne bougez surtout pas, on revient juste après ça.
De la grande matinale sur Africa numéro 1. Le droit est nous dans la grande matinale avec Aliou Tall sur Africa numéro 1.
Les changements de la loi en matière de régularisation, hein, la nouvelle loi sur le droit d'asile et le séjour des étrangers en France vient d'entrer définitivement en vigueur depuis le 1er mars 2019. En dehors des règles sur le droit d'asile que nous avons abordées, cette loi apporte des changements qui compliquent davantage la situation des étrangers en situation irrégulière, communément appelés sans-papiers. Nous traiterons ces changements restrictifs contre les sans-papiers lors des prochains numéros Le Droit et Nous. Aujourd'hui, nous abordons les changements apportés par la nouvelle sur les possibilités d'obtenir un titre de séjour en France dans le cadre de la régularisation. Et on va tout de suite partir au 01 55 07 58 00. On va commencer par Fatoumata. Bonjour Fatoumata.
Oui, bonjour Phil, bonjour Alental.
Bonjour Fatoumata.
Bienvenue.
Et la santé, ça va mieux?
Oui, ça va mieux, j'étais malade, j'avais mal et je ne pouvais pas parler.
À la gorge.
Oui, la voix était cassée et ce n'était pas du tout évident. Donc de parler, mais là ça va très mieux. Merci.
Ça va mieux alors. Oui. Moi, en fait, par rapport à un de mes suivis qui travaillait, en fait, il avait un titre de séjour d'ordre médical. Mm-hmm. Donc maintenant, je pense que sa santé s'est nettement améliorée. La préfecture a jugé qu'il ne bénéficiera plus de ce statut. Mm-hmm. Lui, il avait un CDI et la préfecture lui a dit maintenant pour faire un changement de statut, il faut qu'il aille remplir un CERFA pour pouvoir changer de statut malade et va être salarié. Voilà. Maintenant, son employeur n'a pas pu remplir. Et ils lui ont sorti un prétexte comme quoi il a volé. Et moi, j'ai essayé d'appeler l'employeur qui m'a envoyé balader. Donc, il a raison parce que j'avais rien à... voilà, j'ai pas le droit de demander quoi que ce soit. Je voulais juste me renseigner, mais il m'a envoyé balader. Et entre-temps, deux semaines après, il a reçu une lettre comme quoi il a été licencié. Faute grave, et ils ont énuméré en plus des 8 euros sur la table, ils ont énuméré plein d'autres choses, une carte bleue volée, des accessoires, mais le monsieur m'a dit que lui, il a pris que les 8 euros.
Il a pris que les 8 euros.
Voilà. Donc, sur ça, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on ne peut pas? Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris rendez-vous avec la maison de droit.
D'accord. Très bien.
Et là, on a rendez-vous la semaine prochaine, mais je voulais me renseigner par rapport à ça.
D'accord. Très bien. Je comprends très bien. Donc, en fait, il y a deux questions qui se posent. Une question relative à son droit au séjour, une autre question relative à l'enjeu pénal. Qu'est-ce qu'il peut risquer et puis l'enjeu pénal et aussi du droit du travail, son rapport avec son employeur. Par rapport au droit de séjour, comme l'a dit la préfecture, si c'est avéré que son état de santé s'est tellement amélioré qu'il n'a plus besoin d'un traitement qui est nécessaire, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences très graves, et que ce traitement, il ne peut pas en avoir accès dans son pays d'origine, effectivement, son titre de séjour ne sera pas renouvelé. Comme je l'ai dit, la loi a changé. Depuis le 1er janvier 2017, l'article L313-11-11e du Code des étrangers a introduit un allègement dans les conditions de délivrance de ce titre de séjour pour raison médicale. Cela veut dire que même si les soins existent dans son pays d'origine, le seul fait qu'il ne peut pas y avoir un accès effectif, et la loi insiste sur le mot « effectif », c'est l'effectivité de l'accès aux soins qui est la différence introduite par la loi et concernant la législation antérieure. Ça veut dire, je donne un exemple. S'il est malien, ce monsieur, il habite, je ne sais pas, quelque part à Gao, et que le seul plateau qui existe se trouve à Bamako, où il peut espérer avoir un traitement régulier et suivi, on ne peut pas refuser le renouvellement de son titre de séjour. Cela veut dire qu'avant même de penser à la possibilité d'un renouvellement dans le cadre d'un changement de statut d'étranger malade à salarié, il peut essayer de voir avec son médecin si sa pathologie est vraiment guéri ou bien c'est juste qu'il peut avoir le traitement dans son pays d'origine. Les préfectures maintenant se donnent la liberté en général de dire que d'après les informations qu'on a reçues des autorités consulaires ou diplomatiques dans votre pays d'origine, si je donne l'exemple du Mali, de Bamako, maintenant il existe à l'hôpital de Bamako des moyens pour vous soigner. Mais si le monsieur il habite quelque part dans son bled qui est à la frontière algérienne ou très loin et qu'il ne peut pas avoir un accès régulier et effectif, cet argument ne va pas peser. Il y a lieu, avec l'attestation de son médecin, même si le collège de médecins de l'OFI a dit le contraire, il peut écrire préventivement à la préfecture pour demander à ce que son titre de séjour pour raison médicale soit renouvelé sur la base de l'article L313-11-OSIMA dans sa formulation qui est issue de la loi du 7 mars 2016 et notamment en ce que cette loi entrée en vigueur pour les étrangers malades le 1er janvier 2017 a prévu cette disposition de l'effectivité de l'accès aux soins. Voilà la première précaution à prendre en vérifiant au niveau de son médecin si sa pathologie est définitivement guérie ou pas. S'il est définitivement guéri, il ne faut plus escompter un titre de séjour pour étrangers malades. Néanmoins, toujours, si on considère qu'il ne pourra pas avoir ce renouvellement sur la base de la maladie, il peut faire un changement de statut comme on le lui a suggéré. Le changement de statut, ce n'est pas strictement un changement de statut et seulement d'étranger malade à salarié. Ça peut être un changement de statut d'étranger malade à vie privée et familiale. Pour la partie salariée, effectivement, il va falloir qu'il prouve qu'il aura une activité professionnelle. Quand on dit salarié, c'est le travail. Si malheureusement l'employeur, on va y revenir sur l'aspect pénal, mais sur l'aspect strictement droit des étrangers, si l'employeur n'accepte pas de lui donner un document permettant son changement de statut d'étranger malade à salarié, ce qui est le cas parce qu'il est licencié, donc il ne peut pas escompter sur cet employeur-là, il peut essayer d'avoir une promesse d'embauche de la part d'un autre employeur. Il n'est pas dit que ce sera le même employeur. Ce monsieur ayant toujours un droit à séjour peut faire le tour de toutes les agences intérimaires. Je suis sûr qu'avec son expérience antérieure, il va trouver un boulot. Et c'est ce qu'il doit faire imminemment. Il ne doit pas attendre l'issue de cette procédure contentieuse qui sera pénale ou prud'homale pour savoir quel sera son droit à séjour. Il doit diligenter ipso facto dès à présent toute procédure requise, même à avoir un contrat à durée déterminée, il aura droit en titre de séjour travailleur temporaire. Donc dans le cadre du salariat, ce que je le conseille, c'est dès à présent de tout faire pour trouver un boulot. Quelle que soit la nature du boulot, il n'y aura pas de corrélation entre son expérience antérieure, sa formation et le nouveau boulot. Il faut juste qu'il prouve qu'il aura des moyens de subsistance avec le SMIC au moins. Et même si c'est un CDD, il pourra le faire. Ça, c'est une première chose par rapport au changement de statut. S'il s'avérait qu'il ne peut pas avoir ce boulot et que la date de changement de statut est imminente, il faudra qu'il voie au niveau des motifs humanitaires le fait qu'il ait vécu ici pendant un temps, qu'il a ses attaches personnelles et familiales ici en France, il peut invoquer le motif humanitaire d'admission au séjour. Donc ça, ce sont des possibilités qui existent pour cette personne. Maintenant, rapidement, sur le volet qui concerne son rapport avec l'employeur qui l'accuse d'avoir commis un acte qui est réprimé par la loi, ça veut dire le vol. Il faudra dire que ce n'est pas la quantité d'argent volé qui sera déterminant dans la qualification du vol. Qu'on vole, dans ce cas de figure, 50 centimes ou bien 1000 euros, ça peut être un motif de licenciement pour faute lourde. On se rappelle de la tension qui existait avec entre un employé et une grande surface. C'était 50 centimes. On se rappelle bien. Pour 50 centimes, le juge a validé que carrément, l'employé a failli à son obligation d'honnêteté vis-à-vis de son employeur. Parce que moi, je n'aurais pas
pour
envie...
Pour 50 centimes.
Pour 50 centimes. Ouais. C'est en place des tickets de caisse. C'est pire encore, ce n'était même pas un vol direct. C'était des réductions qui appartenaient à un client que la caissière avait volé pour son propre compte. 50 centimes.
Et le...
Comment ?
C'est une question de confiance.
Voilà, c'est la confiance qui est altérée. Or, il y a le rapport de subordination et le rapport de confiance qui sont le fondement donc de ce rapport de travail. Donc, effectivement, s'il l'a avoué, ça veut dire qu'il a avoué qu'il a volé quelque part. Il ne faudra pas s'acharner à vouloir avoir gain de cause là où on a fait preuve de turpitude. En droit, il y a un principe fondamental que je ne vais pas arrêter de rappeler. Nemo juris plus turpitudinem elegans. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il a fait preuve de turpitude en volant. Quand on conseille quelqu'un, il faut avoir l'honnêteté de lui dire la vérité. Il ne devait pas voler. Il ne devra plus voler s'il veut éviter ce genre de problème. Donc, au niveau prud'homal, il peut y avoir peu de chances pour qu'il ait gain de cause. Je ne parle même pas des autres faits pour lesquels on l'accable. Je ne sais pas quelle est l'étendue de ces faits. Néanmoins, si malgré tout, on se rend compte qu'il y a un acharnement, que cet employeur a saisi cet état de fait pour l'accabler et pour se débarrasser de lui, ça peut être un licenciement abusif. C'est à ce niveau qu'il faudra faire un travail. Voilà. S'il y a lieu, comme vous avez montré mon numéro, donc vous pouvez m'appeler pour essayer de voir à ce niveau si on peut faire quelque chose pour lui.
Merci beaucoup, Fatoumata. Nous avons beaucoup d'appels. Hein.
Merci, Fatoumata.
Merci beaucoup, Fatoumata, pour votre intervention. Nous avons Mandy qui attend depuis un moment déjà. Monsieur Mandy, bonjour.
Allô, bonjour.
Allez-y, posez votre question, monsieur Mandy.
Bonjour, monsieur Mandy.
Bonjour, monsieur.
Oliaf.
C'est-à-dire que j'ai fait venir ma mère en France, là, pour. Elle m'avait dit qu'elle a mal. J'ai fait la demande de.
Et vous avez dit qu'elle a
Elle m'avait dit qu'elle était malade. Bon, elle est venue déjà en 98 se faire opérer de la cornée.
D'accord.
Et puis, à l'époque, elle était sur le nom de mon père, parce que mon père était un travailleur français. Mmh. Elle se soignait. Maintenant, je l'ai ramenée pour faire sa sécurité. Après, quand mon père est décédé, elle a bénéficié de pension de réversion. Donc, elle cotise à la sécurité sociale, elle a son numéro et tout. Maintenant, je l'amène pour 3 mois. Là, on me dit qu'il faut qu'elle ait 3 mois pour pouvoir bénéficier de sa propre sécurité sociale. J'ai été à la sécurité sociale, on m'a dit qu'il faut qu'elle ait 3 mois. Mais le problème, c'est que j'avais pris un certificat d'hébergement pour 3 mois. Maintenant, je voudrais le prolonger et puis pour qu'elle puisse bénéficier de sa carte de sécurité sociale, qu'elle cotise vu à la pension de réversion de mon père et qu'elle s'est jamais fait soigner en France à partir de son propre nom.
D'accord, très bien. Et vous avez quoi comme document de séjour, vous?
Moi, je suis de nationalité française. Mon père est de nationalité française. Et puis, ma mère, il y a ses documents à Nantes qui est avec ma mère, avec mon père et tout.
Très bien. En fait, il y a plusieurs issues qui sont possibles pour votre mère. Donc, après maintenant, on n'aura pas le temps de tout traiter. Mais de ce que vous venez de dire, votre mère, elle est prise en charge avec quoi et par qui? Est-ce que c'est la pension qui constitue son moyen de subsistance ou bien vous l'entretenez, vous participez à sa prise en charge?
Ben, c'est la pension, puisque comme elle vit au Sénégal, la pension, malgré qu'elle est minime, mais elle peut subvenir à ses besoins. Bon, moi, de temps en temps, je donne quelque chose. Et puis, la pension, elle peut subvenir à ses besoins au Sénégal. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle n'a pas pu vivre ici. Bon, elle venait, elle partait, elle rentrait.
Très bien, je comprends. Est-ce que donc, votre maman est entrée avec un visa de type C, c'est ça?
De type C, ouais, j'ai fait une...
c'est un visa touristique, je veux dire, vous avez demandé, c'est cela?
Ouais, pour 3 mois, oui.
Très bien, effectivement. En fait, a priori, normalement, votre mère devrait retourner au pays avant de prétendre à un autre titre de séjour. Parce que c'est un visa de type C, ça veut dire qu'un visa touristique. Et alors que maintenant, elle a des éléments, les circonstances qui justifient des motifs humanitaires sont là. Ça veut dire qu'elle a des éléments très forts qui vont l'aider à avoir un titre de séjour. En l'occurrence, son mari qui était français, qui a travaillé en France et qui lui a laissé aussi une pension. Le fait d'avoir une pension et que c'est donné par... le gouvernement français, cette pension peut lui permettre d'avoir un titre de séjour. Quand on a une rente, une pension et que c'est donné par le gouvernement français, quand on est entré, normalement, a priori, on devrait entrer par un visa long séjour. Mais il y a une exception qui peut être relevée pour votre mère du fait de son ancrage familial ici en France. Son mari qui était là et son fils, vous en l'occurrence, qui vivez ici et qui est français. Ça, c'est un élément au niveau du motif humanitaire qui peut justifier qu'on puisse lui donner un titre de séjour alors même qu'elle est entrée avec un visa de type C. Ça, c'est dans l'hypothèse où vous voulez qu'elle reste ici, qu'elle ne fasse pas l'aller et le retour. Néanmoins, vous pouvez aussi, même si le titre de séjour n'est pas a priori donné avec le visa de type C, qu'elle devrait retourner, pouvez demander une dérogation en promettant de prendre en charge votre mère en supplément de ce qu'elle aura comme pension ici. Vous l'avez bien remarqué, cette pension était suffisante pour l'entretenir au pays d'origine. Peut-être qu'elle ne le sera pas si elle doit vivre ici. Vous prenez l'engagement d'entretenir votre mère en donnant le surplus requis pour qu'elle puisse vivre ici avec au minimum, donc le minimum qui est versé ici en France au niveau de la sécurité sociale. Donc je pense que si vous faites cet engagement-là, votre mère a droit à un titre de résident. Normalement, elle doit solliciter ce titre depuis le pays d'origine avec un visa de type long séjour. Si ça bloque, elle peut repartir et vous préparez tout le dossier pour lui faire délivrer un visa de type D. En tant que mère d'un ressortissant français pris en charge par celui-ci, vous en l'occurrence, et qui bénéficiez d'une rente, d'une pension. À ce niveau, on ne pourra pas lui refuser le visa. Mais néanmoins, il peut être intéressant pour vous d'essayer d'entamer la procédure et qu'elle ne retourne pas dans son pays d'origine. Je pense que c'est ça votre préoccupation.
Ouais, moi, ma préoccupation, c'est d'une... Bon, les mamans, souvent, elles veulent rentrer. Elles veulent... Moi, ma préoccupation, c'était de pouvoir... Comment je fais pour prolonger le visa pour qu'elle puisse avoir sa carte de... sa carte de
résident.
Sécurité, de sécurité sociale, de sécurité sociale.
Et puis de résidence, pour même si c'est que de résidence, le temps qu'elle se soigne, si jamais elle veut retourner, et puis qu'elle repart et qu'elle revient.
Très bien, mais il faut faire un choix, monsieur. En fait, il faut faire un choix. Vous dites que vous voulez juste, parce que les mamans, on comprend bien la réalité sociétale.
Oui. Aliou, je pense que la profondeur de la question de monsieur Mandy, il a la crainte que si sa mère repartait au pays, qu'elle n'ait plus envie de revenir, en fait.
Oui.
Moi, je voulais faire le nécessaire. Si, par exemple, elle a ses documents. Si elle veut repartir, elle repart. Et si jamais il y a un autre problème, je peux la faire revenir.
Oui, d'accord. Mais dans ce cas, il faudra un droit à séjour, comme l'a dit Phil, effectivement. Et je pense que j'ai ressenti, comme on l'a tous ressenti, que les mamans ne veulent pas rester ici parce que pour des raisons sociétales, elles veulent retourner au pays. Voilà. Mais il faudra au moins, avant cela, avoir le titre de résident. Et que si elle a ce titre de résident, elle doit revenir en France régulièrement. Parce que ce titre de résident, si on l'a et qu'on reste, par exemple, 3 ans sans revenir en France, on perd le droit au séjour. Donc là, je pense qu'au moins, à ce niveau-là, ce sera résolu. Néanmoins, M. Mendy, une dernière chose. Faites attention aussi, elle ne pourra pas avoir ce droit à la sécurité sociale si juste vous prorogez son visa de type C. C'est facile de le proroger quand vous allez à la préfecture. On va vous donner ça, mais faites attention. Si on vous donne ce conseil-là, ce serait un leurre. Vous n'aurez pas gain de cause. Ce qui va justifier qu'elle puisse avoir un droit à la sécurité sociale, c'est qu'elle ait un droit au séjour. C'est le préalable. Ce n'est pas un visa de type C prorogé. Donc, vous avez intérêt à faire la démarche ici pour qu'elle ait le droit au séjour et toutes les conditions sont réunies. À la fois en passant par vous ou bien en passant par la rente. Et après, si vous en voulez plus d'informations, on donnera mon numéro de téléphone, d'accord?
D'accord, j'ai essayé votre numéro de téléphone.
Monsieur Mandy, vous allez appeler...
Appelez mon SMS, s'il vous plaît, appeler, Monsieur Mandy. Avec un SMS, je vous répondrai, d'accord ?
Voilà, merci beaucoup, Monsieur Mandy. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Hein. Nous n'avons que 6 minutes le temps de prendre Morgane. Ma sœur est mariée à un Français et on lui demande toujours des documents particuliers à prendre à l'ambassade du Cameroun. Et c'est très, très compliqué. Est-ce bien cela, Morgane ? Bonjour. Allô, Morgane ?
Allô ?
Oui, c'est Morgan ou Morgane ?
C'est Morgane.
Morgane, nous vous écoutons.
Oui, le problème, c'est quoi, en fait ? Elle est mariée en français et au niveau de demander son titre de séjour, elle a déposé son titre de séjour.
Elle vit ici, excusez-nous, Morgane. Votre sœur est ici ou là-bas ?
Elle est ici.
D'accord, parfait.
Ouais. Et ben, elle est venue, elle n'est pas venue dans les voies légales. Ouais, et elle s'est mariée il y a cela 2 ans. On lui demande qu'il faut qu'elle retourne au Cameroun pour prendre un visa avant qu'on lui donne un titre de séjour.
D'accord. Et c'est votre inquiétude,
Je suis votre émission tous les matins.
Très bien.
Et donc, raison pour laquelle elle m'a dit qu'elle voudrait votre contact personnellement, voir si vous pouvez l'aider à lui donner des instructions.
Contact personnel ou contact professionnel, hein,
contact professionnel. Hein.
Voilà.
Professionnel, personnel. On a compris. Professionnel, personnel. Hein.
Ouais, professionnel, mais elle aimerait parler en personne.
Mais d'accord, mais je vais vous donner quand même des informations qui peuvent quand même intéresser tous les auditeurs qui nous écoutent, hein, par rapport à ce qu'on lui a dit. Normalement, il y a un abus de droit, il y a un excès de pouvoir. On ne peut pas demander au conjoint d'un ressortissant français de retourner dans son pays d'origine, de demander un visa avant de bénéficier d'un droit à séjour. La loi dit clairement que la condition de l'article L313-2, ça veut dire la condition de visa long séjour, n'est pas opposable au conjoint d'un ressortissant français qui atteste qu'il ou elle vit avec celui-ci de manière effective, avec une vie commune affective et effective. Si cette condition est réunie, si votre sœur vit avec son conjoint et que c'est un vrai mariage, pas un mariage fallacieux, un mariage migratoire, si ce n'est pas le cas, on ne peut pas lui demander de retourner dans son pays d'origine. On doit lui donner le titre de séjour et déjà, dès à présent, un récépissé. Au moins, elle en a droit. Donc, si c'est le cas, il faudra attaquer tout de suite et pour savoir qu'il y a un excès de pouvoir qui sera sanctionné automatiquement par le tribunal administratif. Mais même avant d'arriver à cet excès de pouvoir, si c'est bien écrit avec une belle requête, avec les arguments de droit, le préfet va comprendre qu'elle a droit à avoir ce droit au séjour. D'accord. Après, on donnera mon contact, effectivement, si vous voulez d'autres informations.
Voilà, on vous donnera le contact, Morgane. Appelez donc au standard. Hein, vous aurez le numéro de téléphone. On va prendre une dernière question. Hein, c'est Denise, quelqu'un qui est sans papier, quelqu'un qui est sans papier, a reconnu un enfant, un de ses enfants. Hein, donc, la justice vient d'annuler cette déclaration. Est-ce cela, Denise? Bonjour.
Oui, bonjour. Alors bonjour. Oui, la justice vient d'annuler cette déclaration.
Mais madame, rappelez-nous la déclaration. En quoi elle a consisté, la déclaration? Rappelez-nous bien, pour qu'on soit sur les faits.
Pour obtenir un titre de séjour en France.
En fait, qui a reconnu qui? Vous avez dit que l'enfant a été reconnu par une personne qui n'a pas de titre de séjour.
Par quelqu'un qui n'est pas le père.
Qui n'est pas le père?
Oui.
D'accord. Et qui a quoi comme document de séjour?
Il n'avait pas de... Là, il a un titre de séjour vie privée familiale.
D'accord. La personne qui a reconnu l'enfant a un titre de séjour vie privée familiale.
Oui. Très après bien. Après avoir reconnu l'enfant.
C'est après la reconnaissance que la personne a eu le droit au séjour.
Oui.
Très bien.
Alors, j'ai entamé une procédure pour annulation. Ça fait 10 ans. Maintenant, la justice a annulé cette déclaration. Maintenant, là, je voudrais savoir... qu'est-ce qui va se passer pour la personne? Parce que cette affaire est devant le juge affaires familiales. Maintenant, la juge affaires familiales n'a pas pris sa décision suite à l'annulation, en disant c'est à la juge pour enfants qui devrait prendre sa décision. Vous trouvez ça? Je ne comprends pas. C'est pour ça que je vous appelle pour savoir un peu plus. Qu'est-ce qui va se passer pour la personne après cette annulation? Et parce que l'enfant a subi de préjudice quand même.
En fait, moi, ce que je veux comprendre, en fait, vous, votre inquiétude, c'est la personne ou l'enfant. Est-ce que cette personne qui a reconnu l'enfant, cette personne-là, quel est l'impact qu'elle escomptait sur la reconnaissance de l'enfant? Quelle était son intention, son objectif?
C'est pour avoir de papiers, c'est pas son enfant, il a reconnu l'enfant pour avoir de papiers. Après la reconnaissance, il a pu obtenir son titre de séjour. Mais je voudrais savoir, mais après l'annulation, est-ce que la personne puisse, qu'est-ce qui va se passer pour la personne d'après la loi? Moi, j'ai
d'accord.
Pas besoin. Vous voyez?
D'accord, mais oui.
Alors, on va vous répondre en une minute, très rapidement, Lio.
Oui, donc, il nous reste qu'une minute, mais je vais vous dire, il y a des éléments que vous ne nous avez pas, dit. Cette personne ne peut pas reconnaître l'enfant de quelqu'un sans son consentement. Déjà, il y a la mère qui était d'accord, on est d'accord, madame?
Non, j'étais pas. Alors voilà. C'est que, comme j'avais personne, le père, il n'était pas là pendant mon accouchement, et j'ai demandé au service social de m'aider. Il est allé voir au service social pour obtenir mes documents. C'est
pour ça
que j'ai entamé une procédure, ça fait 10 ans.
Ah, là, c'est assez grave, et ça mérite qu'on va recommencer l'émission suivante sur cette question, parce que là, c'est assez grave.
On va revenir.
Si vous n'avez pas donné votre consentement, il y a trop de choses que la personne risque, et on va y revenir pour éviter à toute personne qui serait tentée de faire une certaine usurpation des filiations, la gravité que cela emporte au niveau civil et surtout au niveau pénal. Donc ce sera l'objet de la question qu'on va rebondir sur votre question la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous et on va traiter cette question pour tout le monde et pour vous.
Mercredi prochain, très rapidement, 06 16 05 45 51. Et il y a un compte qui a été créé sur les réseaux sociaux. Aliou?
Effectivement. Donc là, en fait, pour me, c'est surtout pour me contacter, ne pas faire d'amalgame, parce qu'il y a des personnes qui reviennent me voir, qui se plaignent d'avoir voulu me voir, qui ont vu une autre personne. Soit appeler à la radio pour avoir mes coordonnées.
Exactement.
Effectivement, pour
parce
avoir
qu'il
les coordonnées d'Ali Outal.
Il y a des usurpations sur les réseaux sociaux.
Oui, il y a des amalgames. Et puis je vois même quand on tape Ali Outal, on tape sur avocatal.fr. Ce n'est pas moi du tout. Vous tapez Ali Outal juriste. Moi, je suis juriste. Sinon, vous appelez à la radio. Sinon, le numéro.
Le numéro, il est très simple. Donc, si vous avez la possibilité de noter maintenant, 06 16 05 45 51.
Donc, 06 16 05 45 51. Et SMS, s'il vous plaît.
Merci.